chronique terrienne, une fois par mois sur Radio Saint-Aff par Cécile Blanche.
Pour ces émissions, je vous annonçais que je me consacrais aux peuples autochtones et particulièrement à ceux qui se retrouvent en situation de réfugiés. Connaissez-vous le camp de réfugiés de Tindouf dans le Sahara algérien? Eh bien, je vais vous parler de son histoire et de ceux pour qui ce camp a été créé, les Sahraouis. Les Sahraouis sont un peuple dit « sans territoire ». Ils ne sont pas considérés comme autochtones, puisque l'un des critères pour définir qu'un peuple est autochtone, c'est son appartenance à un territoire. Mais comme ils fournissent un contingent certain de réfugiés, dont une partie en France, leur situation peut nous intéresser et apporter quelques informations sur eux ne peut pas nuire. Comme toujours, je glane ces données sur Internet en croisant différentes sources. Je les signale en fin d'émission, tout au moins pour une partie d'entre elles. L'histoire mouvementée des Sahraouis débute avec les prétentions coloniales de l'Espagne sur ce Sahara occidental, issu du découpage de l'Afrique par les colonisateurs européens. Petit tour d'horizon sur la population du Sahara, dont les Sahraouis font partie. On dit « peuple du Sahara » pour désigner l'ensemble des tribus nomades qui vivent dans le Sahara de la côte atlantique, c'est-à-dire le Sahara occidental, le sud du Maroc et la Mauritanie, jusqu'à l'Égypte et une partie du Soudan. On dit que le Sahara est l'une des premières régions de peuplement au monde. C'est sa désertification, commencée il y a 7000 ans, qui a conduit les hommes à devenir nomades. La domestication du dromadaire leur a permis de s'adapter aux conditions désertiques. Ils se sont spécialisés dans le commerce entre l'Afrique noire et les pays méditerranéens. Ils étaient les seuls capables de conduire des caravanes par les routes, gardées secrètes, qui traversaient le désert. Enfin, jusqu'à l'ouverture des voies maritimes par les Européens. Dans ces peuples, l'occupation du territoire, les parcours possédés collectivement par une tribu, pouvaient varier en fonction des rapports de force entre les tribus et de ce fait, il n'y avait pas de frontières avant les colonisations. Et le peuple sahraoui en tant que tel n'existait pas avant la colonisation espagnole. C'est-à-dire que se reconnaissaient d'un même peuple ceux qui subissaient le même joug. Ces Sahraouis. Donc, société organisée en tribus, dont la culture, les coutumes et les modes de vie sont homogènes. Les principales tribus, selon un recensement espagnol de 1974, sont les Tacna, les Regibat, les Zoulettes d'Elim et les Zoulettes Tidrarine. À côté de ces principales tribus, il y a les Aratines, qui, selon un recensement effectué en 1993, représenteraient aujourd'hui un tiers des Sahraouis. Les Sahratines sont des descendants d'esclaves qui servaient de domestiques ou de gardiens de troupeaux aux nomades. En aparté, je peux témoigner de la persistance de cet esclavage en Mauritanie, malgré son abolition. Je me trouvais une première fois en 1998 à Shingeti. Même que, profitant du 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, j'avais organisé une soirée pour les amis de mon hôte et pour fêter l'événement. Un membre de l'administration s'est invité. Et au fur et à mesure que je lisais le texte de la Déclaration des droits de l'homme, je sentais monter son hostilité et la gêne grandissante des jeunes présents. Et j'ai dû interrompre la lecture pour éviter une rupture diplomatique. L'élevage du dromadaire tenait une place centrale dans leur mode de vie et leur économie. La famille, possédant un troupeau, formait la base de la société traditionnelle. Par exemple, en 1947, les Régibat possédaient 40 000 dromadaires, répartis à raison de 10 têtes en moyenne par famille, ce qui ferait donc 4 000 familles. Les liens entre les tribus tiennent à la reconnaissance d'un ancêtre commun fondateur, saint, marabout, descendant du prophète. Les Sahraouis ont une langue commune, le Rassania, dialecte arabe bédouin que l'on retrouve également en Mauritanie. Certaines tribus du nord du territoire parlent le berbère. Leur religion est l'islam, mais compte tenu de leur nomadisme, il n'y a pas de mosquée. La religion se pratique au sein de confréries. En 1884, l'Espagne proclame un protectorat sur ce qu'on appellera le Sahara occidental, entre Maroc et Mauritanie, alors que les pêcheurs espagnols exploitaient dès le XVIIIe siècle la richesse en poissons des côtes de cette région. Un an après, lors d'une conférence à Berlin, il y a partage de l'Afrique de l'Ouest entre Français et Espagnols. La délimitation de frontières, dès lors, perturbe le nomadisme des tribus. Le terme de Sahraoui a été utilisé par l'administration coloniale espagnole pour désigner l'ensemble de la population du territoire dont l'Espagne avait pris possession. Les batailles entre Maroc et Mauritanie, avant et après les indépendances, pour la délimitation des frontières sur cette partie occidentale du Sahara, puis son annexion pure et simple par le Maroc en 1975, a renforcé la conscience d'une appartenance à un même peuple et un même territoire, le Sahara occidental. La situation depuis les indépendances et encore aujourd'hui est très complexe, avec des protagonistes nombreux impliqués dans un problème qui est loin d'être résolu pour les Sahraouis. Il y a tellement de faits, de rebondissements depuis 45 ans que je me suis peut-être un peu perdue dans toutes les données existantes. J'en ai certainement escamoté qui sont intéressantes, mais trop, c'est trop. Cependant, je persiste à vouloir vous parler des Sahraouis parce que leur situation en évoque d'autres. Avant la colonisation, le territoire sahraoui n'a jamais été soumis à aucun pouvoir central et n'avait aucun lien de souveraineté avec le Maroc ou la Mauritanie. Puis ces deux pays ont voulu annexer le Sahara occidental dès le processus de décolonisation entamé par l'Espagne. C'est alors qu'une guerre s'est déclenchée, en plus d'intenses négociations orchestrées par l'ONU. Et encore aujourd'hui, le sort du Sahara occidental et de sa population est en balance. En 1966, une résolution a été votée à l'ONU en faveur de l'organisation d'un référendum d'autodétermination pour la population du Sahara occidental. Cette résolution a été reconduite 5 fois entre 1965 et 1973, sans résultat, et avec des tractations interminables entre l'ONU, l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie et enfin l'OEA, Organisation de l'Unité Africaine. C'est ainsi qu'est né le Front Polisario dès 1973, proclamant la révolution et le début de la lutte armée afin d'obtenir l'indépendance du Sahara occidental, sa reconnaissance en tant qu'État indépendant. En 1975, les troupes espagnoles se retirent, cédant la place aux armées marocaines et mauritaniennes. La population, alors, fuit les combats. Le Maroc bombarde les réfugiés, dont 40 000 se retrouvent à Tindouf, dans le Sahara algérien. En 1976, le Polisario complète son intervention armée par la création de la République arabe sahraoui démocratique en exil. La Mauritanie jette l'éponge en 1978. Le Polisario se retrouve face au Maroc. Celui-ci maintient ses prétentions sur le Sahara occidental, envahit les 7/8 du territoire et active l'installation de colons marocains qui aujourd'hui représentent plus de la moitié de la population du Sahara occidental. Il y aura un cessez-le-feu entre Maroc et Polisario en 1991. Mais le problème n'est pas résolu pour autant. Toute la question pour le Maroc est d'avoir un vote favorable à son maintien sur le territoire qu'elle occupe, lors de ce fameux référendum d'autodétermination qui, encore aujourd'hui, n'a pas été organisé. D'où des tractations et des tensions pour l'identification des votants et pour laquelle une commission spéciale de l'ONU a été créée. Manifestement, l'ONU n'arrive pas à faire respecter ses résolutions, pourtant votées en principe par la grande majorité des pays. La population sahraoui est en partie restée au Sahara occidental, sous domination marocaine, en partie à Tindouf. Certains encore se sont exilés dans d'autres pays, comme la France. Quels sont alors les individus qui vont pouvoir figurer sur la liste des votants pour le référendum? Telle est la grande question que l'ONU essaye de résoudre. camp des réfugiés de Tindou, ou plutôt les camps, qui existe donc depuis 45 ans, est remarquable par son organisation. Nous allons nous y arrêter un peu. Il a fait l'objet de plusieurs études de la part d'ethnologues, de sociologues. C'est le gouvernement de la République arabe sahraouite démocratique en exil qui a pris en charge l'organisation des camps de réfugiés disséminés au sud de l'oasis de Tindouf sur une hamada, c'est-à-dire un désert de pierre, de quelques centaines de kilomètres carrés. Les réfugiés sont estimés à 165 000 personnes. Ils sont soumis à des conditions climatiques extrêmes, sans ressources naturelles et entièrement dépendants de l'aide humanitaire. Réfugiés en grand nombre dans un milieu particulièrement hostile, ils ont su faire preuve d'une résilience qui leur a permis de survivre encore aujourd'hui. Ils ont su, avec leur grande expérience de nomades, aménager leurs installations pour tirer parti des moindres possibilités offertes dans ce désert. Regroupement des bâtiments et des tentes à la verticale des quelques points d'eau, une architecture adaptée pour éviter l'accumulation de sable, étroitesse des ouvertures pour obtenir une relative fraîcheur à l'intérieur, etc., etc. Mais ce qui est le plus remarquable, c'est leur organisation sociale. Le Front Polisario, qui a dirigé l'organisation de ces camps, l'a fait en pensant à un avenir qui ne pouvait être que le retour d'exil et l'indépendance du Sahara occidental, territoire désormais d'un peuple, le peuple sahraoui. Pour le Polisario, la réussite de leur lutte passait par un changement de paradigme pour les Sahraouis. Se considérer non plus comme un ensemble de tribus indépendantes, avec un jeu de dominance et d'alliance variable dans le temps, mais se concevoir comme un peuple, uni dans un même objectif, la création d'un État sur le territoire du Sahara occidental. D'autant plus nécessaire qu'il fallait absolument être vu comme un peuple pour pouvoir bénéficier de l'intervention de l'ONU qui, normalement, devrait pouvoir résoudre le problème du Sahara occidental et par des négociations entre les Sahraouis et le Maroc et sans violence. C'est comme cela que l'organisation des camps de Tindouf est la préfiguration du futur État. Chaque camp est assimilé à une région et chacune des 6 unités d'habitation le constituant est considérée comme une municipalité divisée en quartiers avec au centre du quartier un dispensaire et un jardin d'enfants. L'école regroupe les enfants de 2 ou 3 quartiers à égale distance. Au centre du camp se situent les bâtiments administratifs qui concernent la santé, l'éducation. Et pour bien signifier que ces installations ne sont que provisoires, en attendant le retour au Sahara occidental, chaque camp et chaque quartier portent le nom d'une ville ou d'un village du territoire perdu. Tous les individus, quel que soit leur âge ou leur sexe, se sont trouvés investis d'un rôle, d'une place dans la société et d'un travail à accomplir en bousculant la répartition traditionnelle des tâches dans la société nomade. Ainsi, du statut d'inférieur des forgerons, des femmes, du griot, chacun, jeunes lettrés, artisans et parmi eux les femmes, ont été invités à mettre leurs connaissances au service de la communauté. Tous les enfants ont été scolarisés sans distinction de sexe ou d'origine sociale. Et garçons et filles sont envoyés faire leurs études secondaires et supérieures dans les pays amis comme l'Algérie, Cuba, voire l'Espagne. Et ce sont surtout les femmes, puisque la plupart des hommes sont mobilisés pour combattre, qui ont en charge de mettre en œuvre tous les programmes de cette conception active de l'exil.
Thank you.
continuer à peut-être vous ennuyer avec des détails. Vous pouvez toujours interrompre l'écoute. Mais le système d'organisation me paraît assez remarquable pour le détailler. Voilà ce qu'en dit Sophie Caratini dans son texte « Un peuple sans territoire ». Chaque individu, pour bénéficier de l'aide alimentaire, doit non seulement être recensé comme habitant du camp, mais être en charge d'un travail régulier auquel peut être ajouté des tâches occasionnelles, collectives, dites « campagne ». Tous les adultes en âge de travailler sont répartis dans des comités populaires de base. Éducation, santé, production, justice, distribution alimentaire. Un système de représentation les relie au ministère de tutelle correspondant. La répartition des tâches change d'une année sur l'autre, de manière à ce que chacun et chacune ait la possibilité de se former à toutes les fonctions. Mais bon, avec le temps, 45 ans tout de même, ce système a évolué. Outre l'élaboration d'une constitution et d'une législation qui déchargeait les citoyens de plusieurs de leurs charges, est intervenue l'ouverture des camps, l'introduction de l'argent qui a favorisé des petits commerces, des marchés, alimentés par la circulation des individus et des marchandises entre l'Algérie et la Mauritanie, ce qui a modifié quelque peu l'esprit de partage des réfugiés. De plus, le report incessant du référendum et la perspective toujours repoussée du retour désespèrent l'ensemble des Sahraouis. Et les jeunes nés dans les camps pensent à un avenir plus individualiste. Ils sont désabusés. « Si la paix ne tarde pas trop à s'installer, écrit Sophie Caratini, les réfugiés rentrés chez eux pourront enfin mettre à profit cette expérience unique dans l'histoire d'un peuple. » C'était en 2001. Et aujourd'hui, 20 ans après, la situation n'est toujours pas résolue. Et en 20 ans, le Polisario n'a pas été exempt des dérives du pouvoir, malheureusement si fréquente dans nos sociétés. Il est accusé de détourner l'aide alimentaire. Si globalement on évalue à 3% le détournement de l'aide internationale, on soupçonne que pour les camps de réfugiés, ce détournement est bien supérieur. Ceci dit, 3% seulement de détournement admis me paraît bien faible. J'ai eu l'expérience du tremblement de terre d'Orléansville en Algérie il y a 65 ans. Et je vous garantis que l'aide internationale a largement été détournée au profit de quelques-uns qui en étaient à souhaiter un autre épisode de catastrophe. Et depuis, il y a eu d'autres cataclysmes naturels traités de la même façon. La création récente d'un mouvement sahraoui pour la paix, qui date de mai 2020, créé par des anciens du Polisario, s'est donné pour tâche, je cite, « une solution pacifique aux problèmes du Sahara occidental et entend exercer son influence positive, il fustige le rôle du Polisario ». Avec ce nouvel intervenant pris au sérieux immédiatement, l'ONU, je cite encore, poursuit ses efforts en vue de trouver une solution pacifique et concertée pour mettre fin au conflit existant. Et l'Union européenne, dont le Maroc est le premier partenaire économique, a aussi été sollicitée dans la résolution du conflit entre Maroc et peuple sahraoui. Las, à la mi-novembre 2020, une nouvelle guerre a démarré avec une intervention de l'armée marocaine à la frontière de la Mauritanie et le Polisario en retour a bombardé fin janvier 2021 cette même zone. Enfin, quelques mots sur les réfugiés sahraouis en France. Il y en a, bien sûr, vu le contexte politique et la répression dont les Sahraouis sont victimes au Maroc. Une association de réfugiés sahraouis en France s'est créée. On peut lire sur leur site qu'elle a pour but de faire connaître et reconnaître le peuple du Sahara occidental, son histoire, sa culture, sa vie, son territoire et ses ressources. Tout ceci auprès de l'opinion française et internationale. Outre cette association domiciliée à Mantes-la-Jolie, il y a une association bordelaise, Bordeaux, où, semble-t-il, des Sahraouis vivent plus ou moins dans la légalité depuis au moins 10 ans. Il y a également une association des femmes sahraouis en France. Et pendant ce temps-là, on ne perd pas le Nord. Nombre d'entreprises européennes exploitent et importent les ressources minérales, fossiles, agricoles et halieutiques sahraouis, avec l'assentiment de leurs États respectifs. Donc, rien à signaler. Tout est comme d'habitude. On respire. Un petit conte du désert pour échapper à ces tristes événements. La Voix des Sables, extrait de L'Arbre d'amour et de sagesse de Henri Gougaud. Il était une fois un vieux fleuve perdu dans les sables du désert. Il était descendu d'une haute montagne qui se confondait maintenant avec le bleu du ciel. Il se souvenait d'avoir traversé des forêts, des plaines, des villes, vivace, bondissant, puis large, fier et noble. Quel mauvais sort l'avait conduit à s'enliser parmi ces dunes basses où n'était plus aucun chemin. Où aller désormais et comment franchir ces espaces brûlés qui semblaient infinis? Il l'ignorait et se désespérait. Or, comme il perdait courage à s'efforcer en vain, lui vint des sables une voix qui lui dit « Le vent traverse le désert ?» Le fleuve peut en faire autant. Il répondit qu'il ne savait voler comme faisait le vent. Fais donc confiance aux brises, aux grands souffles qui vont, dit encore la voix. Laisse-toi absorber et emporter au loin. Faire confiance à l'air hasardeux, impalpable. Il ne pouvait accepter cela. Il répondit qu'il était terrien, qu'il avait toujours poussé ses cascades, ses vagues, ses courants dans le monde solide. Que c'était là sa vie et qu'il était inconcevable de ne plus suivre sa route vers les horizons sans cesse renouvelés. Alors la voix lui dit, ce n'était qu'un murmure, « La vie est faite de métamorphoses. Le vent t'emportera au-delà du désert. Il te laissera retomber en pluie et tu redeviendras rivière. » Il eut peur tout à coup. Il cria, « Mais moi, je veux rester le fleuve que je suis. » « Tu ne peux, » dit la voix des sables, « et si tu parles ainsi, c'est que tu ignores ta véritable nature. Le fleuve que tu es n'est qu'un corps passager. Sache que ton être impérissable fut déjà maintes fois emporté par le vent, vécu dans les nuages et retrouva la terre pour à nouveau courir, ruisseler, gambader. » Le fleuve resta silencieux. Et comme il se taisait, un souvenir lui vint, semblable à un parfum à peine perceptible. « Ce n'est peut-être rien qu'un rêve, » pensa-t-il. Son cœur lui dit, « Et si ce rêve était ton seul chemin de vie désormais ?» Le fleuve se fit brume à la tombée du jour. Craintif, il accueillit le vent qui l'emporta. Et soudain, familier du ciel où planaient les oiseaux, il se laissa mener jusqu'au sommet d'un mont. Loin, au-dessous de lui, les sables murmuraient. « Il va pleuvoir là-bas, où pousse l'herbe tendre. Un nouveau ruisseau va naître. » « Nous savons cela. Nous savons tous les mille visages de la vie, nous qui sommes partout semblables. » La voix sans cesse parle. Comme la mémoire du monde, le conte des sables est infini. Sur ce rêve se termine notre émission. Côté musical, vous avez pu entendre successivement extrait du CD « Chant pour les réfugiés du désert » Toumast, Tartit, Nabil Bali Othmani. Deux chants de Mauritanie par Ouleya et Wesne. Et enfin, un extrait du CD de Idir, Chasseur de lumière. Mes informations, je les ai puisées, entre autres, sur le site de l'IRD, Les Sahraouis, un peuple sans territoire, texte de Sophie Caratini, sur Wikipédia, Peuple du Sahara, les Sahraouis et le Sahara espagnol. Sur le site de l'ACAT, le Sahara occidental, tombeau de la légalité internationale. Sur le site, le 360, Sahraoui pour la paix, un mouvement contestataire, anti-polisario, pour en finir avec le séparatisme. Cette émission sera rediffusée demain à 8h15 et samedi à 16h. Elle est disponible aussi en podcast sur radiosaintafrique.com, les mensuels culturels, les chroniques terriennes. Une petite sentence pour finir. Quand le pouvoir de l'amour remplacera l'amour du pouvoir, la terre sera sauvée. Mm.